promène est dans l'eau, son ancêtre est la grenouille, et l'analyse des langues humaines apporte la preuve de cette théorie.
C'est Jean-Pierre Brisset, saint du calendrier pataphysicien, qui le dit. La pataphysique, cette science des solutions imaginaires inventée par Alfred Jarry au XIXe siècle, s'est donc enrichie de cette savoureuse théorie de l'évolution qui s'appuie notamment sur le fait que
la généalogie des langues nous ramène au couac initial de la grenouille.
La preuve en est qu'à l'entendre, on serait tenté de lâcher un quoi ? Sieur du Collège de Pataphysique, fondé en 1948 et comprenant entre autres Queneau, Prévert, Vian ou Ionesco, personne n'a retenu cette théorie. Elle n'en a pas moins pour mérite de se pencher avec sérieux sur celle qu'on ne convoque jamais que pour parler météo ou rire de leur grande bouche, j'ai nommé les grenouilles. Soyons clairs, la grenouille n'est pas la femelle du crapaud, ce sont deux animaux différents. Ils font tous deux partie de l'ordre des anoures qui, avec celui des urodèles, que sont les tritons et les salamandres, sont les principaux amphibiens. Grenouilles et crapauds sont les seuls à émettre ce cri remarquable qu'on appelle coassement. Chaque espèce a son coassement propre et nul anour ne réagit aux appels d'une autre espèce que la sienne. En ville, on les entend peu, car peu de milieux sont propices à leur installation. Sur les 25 espèces présentes en France, un peu moins de 10 le sont à Toulouse, mais la plupart ont très peu été observées et dans des zones bien précises, comme à la Maurine, où l'on peut entendre le rare Pélobat cutripède. Parmi les autres espèces présentes dans notre ville, le crapaud persillé ou ponctué, le commun, le calamite et la rainette méridionale. Seul le Pelophylax ridibundus, grenouille rieuse, peu exigeante en matière d'habitat, se trouve en grand nombre. Et l'on peut l'observer à Toulouse, notamment dans ce bassin du jardin japonais, de mars à fin octobre. Si on ne les voit pas en hiver, c'est que lorsqu'il fait froid, les anoures s'enfouissent dans la vase, sous des feuilles, des souches, dans des cavités, et se mettent en pause, ralentissent leur fonctionnement interne, ne mangent plus, ne bougent plus, et attendent. Contrairement aux mammifères, les grenouilles ne peuvent pas réguler leur température interne, et doivent donc varier leur habitat pour que celle-ci ne monte ou ne baisse pas trop. L'été, lorsqu'il fait trop chaud, elles se mettent à l'abri la journée, et ne sortent que pour se nourrir, le soir ou quand il pleut. Seules les températures printanières leur vont bien. C'est alors qu'elles se reproduisent. Là, vers les mois de mars-avril, c'est le branle-bas de combat. Les grenouilles quittent leur lieu d'hibernation pour se précipiter en direction de leur lieu de naissance, la mare, le bord des rivières ou autre. Les femelles sont chargées d'œufs à faire féconder, les mâles excités à l'extrême, les sacs vocaux gonflés à bloc et les pattes prêtes à sauter sur la moindre femelle de passage. Jour et nuit, ils vont tâcher de démontrer leur vigueur en chantant. Les dominants établiront des territoires de plusieurs mètres carrés. Les autres feront comme ils pourront. Lorsque le mâle est agrippé à la femelle, il l'enserre puissamment et fertilise les ovocytes de celle-ci à mesure qu'elle les éjecte. Ce mode de fécondation externe, où le mâle est agrippé à une femelle sous les aisselles, est appelé l'amplexus axillaire. La fécondation dure jusqu'à épuisement du stock d'ovules. La ponte des grenouilles forme une grosse grappe d'œufs gluants qui mettront quelques jours à devenir têtards, qui eux mettront quelques mois à devenir grenouilles. Certains tardifs pourront hiberner pour se métamorphoser en mai-juin de l'année suivante, où le concert des coassements reprendra. C'est en effet de mi-mai à mi-juin, à la saison des amours, qu'on entend résonner jour et nuit comme des rires tonitruants, le coassement des grenouilles rieuses mâles. C'est leur manière d'attirer les femelles et d'éloigner les concurrents. Car chez les grenouilles, comme chez les crapauds, la séduction se fait à l'oreille. Du chant, on apprend beaucoup. Si le mâle chante grave, c'est souvent qu'il est gros et en bonne santé. S'il peut chanter à un rythme soutenu et continu, c'est qu'il est endurant et capable de fournir de gros efforts. C'est donc un bon candidat pour féconder les œufs dont la femelle est pleine. Les gringalets à voix frêle n'ont pour autant pas dit leur dernier mot. Et il arrive que certains se planquent derrière les mâles à grosse voix et sautent sur les femelles attirées par leurs concurrents. À défaut d'être bien dotés, on peut toujours faire preuve de stratégie. Les mâles sont les seuls à être pourvus d'un appareil émetteur et amplificateur de son. Chez les rieuses, Il consiste en un ensemble de sacs vocaux gris qui se gonflent de chaque côté de la gorge, formant des caisses de résonance grâce auxquelles les sons peuvent monter à une centaine de décibels et être entendus jusqu'à 1 km à la ronde. Le chant est émis bouche et narines fermées. L'air est inspiré par les fentes situées sous la bouche où il fait vibrer des cordes vocales lors de ses allers-retours du larynx vers les poumons. Il n'y a pas de variation dans le son, sauf en cas de fatigue. Quant à la femelle, elle ne crie que pour indiquer au mâle qu'elle n'est pas prête à la fécondation ou qu'elle n'a pas été bien saisie lors de l'amplexus. Pour déterminer le mâle et la femelle, il suffit donc de tendre l'oreille. Le mâle est celui qui fait le plus de bruit, et c'est aussi le plus petit. D'une manière générale, la grenouille rieuse est plus grosse que les autres grenouilles françaises. Elle peut faire plus de 13 cm. On la reconnaît à son museau en pointe, ses courtes pattes avant et ses longues pattes arrière aux cuisses particulièrement charnues. Ce dernier attribut n'est pas sans lien avec sa présence à Toulouse. Il faut savoir qu'avant les années 1970, cette grenouille originaire de l'Est de l'Europe n'avait jamais été observée à Toulouse. Introduite massivement pour satisfaire les gourmets avec ses grasses cuisses, ces grenouilles qui étaient censées rester dans les mares attenantes au restaurant en attendant de passer à la casserole, ont pour certaines décidé de prendre le large. Progressivement, leur population s'est ainsi étendue pour toucher l'ensemble du territoire européen et accrue au point de menacer les autres espèces de grenouilles. Pour le docteur Schmeller, chercheur à l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse, cela peut représenter une véritable menace pour les espèces indigènes qui pourraient progressivement disparaître. C'est que, comme on l'a dit, la rieuse est plus grosse, ce qui en fait une proie plus difficile à attraper pour ses prédateurs que sont certains oiseaux, poissons, serpents ou petits mammifères. Elle vit jusqu'à 8 ans, quand les autres grenouilles meurent en moyenne au bout de 5 ans. Et surtout, elle est capable de se reproduire avec d'autres espèces de grenouilles. C'est ce qu'on appelle l'hybridogénèse. Et c'est alors son génome qui prendra le dessus. Autrement dit, si une rieuse s'accouple avec une autre espèce, ce sont des rieuses qui naîtront de cette union. Elles auront la couleur brun olive, tirant parfois sur le jaune, avec un ventre d'ordinaire marbré ou taché de gris ou de noir, qui caractérise l'espèce aujourd'hui pourtant classée parmi les grenouilles vertes. Les rieuses seraient-elles parties à la conquête du monde des grenouilles ? Mystère. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que du fond des mares aux bordures de trottoirs, des espèces apparaissent, d'autres disparaissent, dans un incessant jeu de bascule des écosystèmes où la main de l'humain n'est jamais bien loin.